Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, La Dentelière, de Pascal Lainé. La Dentelière est un roman de Pascal Lainé, publié le 7 février 1974 aux éditions Gallimard. Il obtient le prix Goncourt la même année. Le livre raconte l'histoire de Pomme, une jolie jeune fille simple et réservée qui vit avec sa mère, d'abord dans ce département du nord de la France, qui est en forme de betterave sur les cartes, puis dans la banlieue de Paris, quelque part, du côté de Suresnes et d'Asnières. La mère travaille dans une crèmerie, la fille dans un salon de coiffure. Lors de vacances à Cabourg, Pomme rencontre Emery de Béligné, alors étudiant à l'école des Chartes, mais Emery s'exaspère de la modestie, du dévouement et de la neutralité de sa compagne et décide de rompre. Pomme sombre dans l'anorexie et la dépression. Le roman a été adapté au cinéma par Claude Goretta en 1977 dans un film à succès, public et critique, La Dentelière, qui lança notamment la carrière de l'actrice Isabelle Huppert. Pascal Lainé est né le 10 mai 1942 à Annette, dans le département de l'Eure-et-Loir. C'est un ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de philosophie, enseignant. Il a reçu le prix Médicis en 1971 pour l'Irrévolution et le prix Goncourt en 1974 pour La Dentelière. Dans son roman L'Irrévolution, il met en scène un professeur contestataire et les futurs chaudronniers, ses élèves avec lesquels il ne parvient pas à dialoguer, faute d'une langue véritablement maternelle. Ce court roman lui est sans doute inspiré par sa propre expérience d'enseignant au lycée technique de Saint-Quentin, 2 ans durant. Son roman, La Dentelière, prix Goncourt en 1974, relate l'aliénation des femmes à travers le personnage contemporain d'une employée d'un salon de coiffure. Pour autant, au-delà de ces deux livres, parmi les premiers qu'il a publiés, des œuvres primées et fort bien accueillies, il a écrit plus d'une quarantaine d'ouvrages, romans, essais. Il meurt à l'âge de 82 ans, le 30 décembre 2024, à Ivry-sur-Seine, et est inhumé au cimetière du Montparnasse. Emery de Béligné se fraya un chemin dans la foule des vilains, jusqu'à la grande rue du Bourg, qui s'appelait l'avenue de la mer. Il portait un pourpoint et des hauts de chausses tout blancs. Il tenait de sa senestre, dans un fourreau de cuir, rouge, sa raquette de tennis. Il était perdu dans de bizarres réflexions sur le monde présent et sur lui-même, comme l'indique assez son accoutrement. C'est alors qu'il remarqua Pomme, assise à la terrasse d'un pâtissier glacier, les yeux baissés sur les dégoulinements d'une boule de chocolat. Cette contemplation nourrissait en elle un discret sentiment de l'irrémédiable, et elle ne fit pas mine de repousser l'individu qui s'assit à côté d'elle. C'était bien sûr Emery de Béligny qui commanda une glace au chocolat, et une autre pour mademoiselle. Il avait fini de se présenter quand les coupes arrivèrent. Il était étudiant à Paris, à l'école des Chartes, mais il était natif de la région où se trouvait le château de ses aïeux. En réalité, il dit seulement de mes parents. Il y passait chaque année ses vacances. « Et vous ?» demanda-t-il à Pomme. Pomme regardait sa boule de chocolat toute neuve et se demandait ce qu'on pouvait bien apprendre à l'école des Chartes. Elle dit qu'elle était visagiste. Des gens passaient sur le trottoir. Un petit garçon se planta devant eux pendant quelques secondes. Il suçait un esquimau rose et bavait un peu. Il avait l'air très soucieux pour ses 3 ou 4 ans. Il se mit à se dandiner d'un pied sur l'autre, en grattant tristement le fond de sa culotte. Tout à coup, il détala. « En réalité, leur rupture fut quelque chose de bien plus simple. Il lui dit son intention de la quitter, sans brutalité, mais sans qu'il jugeât nécessaire non plus de ménager la sensibilité de la jeune fille, parce qu'il la soupçonnait d'être insensible. Surtout depuis qu'il s'était efforcé d'imaginer quelle serait sa réaction à l'annonce de leur séparation. Finalement, il n'imaginait aucune espèce de réaction. La jeune fille se détacherait de lui sans faire d'histoire. Elle ne fit pas d'histoire. Elle ne sut dire que « Ah bon ?» Et puis, je le savais bien. Elle referma la boîte de cure émail, rinça son éponge et s'essuya les mains. Elle ne protesta pas. Elle ne pleura pas. Si bien qu'Emery, au lieu de se trouver asséréné au bon compte, comme il l'avait espéré, vit seulement croître ce qu'il éprouvait déjà de ressentiment à l'égard de cette fille, qu'elle considéra comme une sorte de brute. Mais il ne pouvait pas simplement ignorer le mal qu'il faisait à Pomme. Elle n'avait rien demandé de lui, peut-être, sauf d'accepter l'offrande qu'elle lui faisait de sa personne. Il s'avisait maintenant qu'elle lui avait extorqué quelque chose d'énorme. Et lui, il n'avait pas eu le courage de retenir la jeune fille au bord du don de soi. Il l'avait laissé faire. Il avait laissé brûler devant lui ce petit cierge à sa dévotion, sans plus s'en soucier que d'une ampoule qu'il aurait oublié d'éteindre avant de s'endormir. C'était comme le jour de leur rencontre, de leur première conversation, de leur première promenade ensemble. C'était comme le jour où, pour la première fois, ils avaient fait l'amour. À chacune de ces étapes, mais ils ne savaient pas alors que c'était des étapes, il se rendait compte simplement qu'il était trop tard pour faire autrement. Alors il passait l'étape avec une espèce de remords, mais vite oublié. À chaque fois, cependant, il mesurait que le mal qu'il faudrait faire à la jeune fille, ensuite, serait encore plus grand. Le futur conservateur s'était installé dans un modeste garni, devant le Panthéon. Le contraste de sa nouvelle chambre et du monument d'en face l'avait séduit. Accoudé à la fenêtre, il voyait dans un saisissant raccourci ce que pourrait être son destin. Il pensait souvent à sa propre mort, de cette manière. Ce n'était pas du tout effrayant. Son âme fraîchement éclose de la chrysalide de charnel voltait au-dessus du cortège de ses funérailles. Il admirait l'ornancement du convoi. Il y avait l'institut, il reconnaissait son épée, ses décorations sur un coussin de velours noir que portait le secrétaire perpétuel de l'Académie. Il y avait le ministre de la Culture, plusieurs parlementaires, des artistes, des écrivains, et puis, plus loin, le flot noir et magnifique de la foule. Au fond, c'était un soulagement pour lui que d'avoir quitté Pomme. Il pouvait s'adonner à son rêve de lui-même, avec moins de réserve, sans le muet, mais indiscret démenti de la jeune fille. Il se rendait bien compte qu'il était vaniteux. Cette joie qu'il avait, par exemple, à imaginer ce que les gens disaient de lui quand il n'était pas là, et dont le fantasme de son propre enterrement n'était en quelque sorte que l'apothéose. Alors, il se disait que cette vanité, puérile, un peu ridicule peut-être, n'était que l'autre face d'une grande timidité qui le faisait douter de lui dans le moment même de ses plus folles ambitions. Car il y avait aussi les heures d'abattement, de dégoût. Il se sentait corps et âme malingre. Ses grandeurs présumées étaient une revanche, un besoin. Il s'était donc séparé de Pomme sans trop d'émotion. Mais pour cette raison, il s'en voulait un peu. Cela aussi le rapetissait. Cela le confirmait dans son prosaïsme. Pas de grande douleur. Il avait seulement attrapé un gros rhume pendant qu'il était chez ses parents. En rentrant à Paris, il toussait et larmoyait d'abondance. Il ne pouvait même plus lire, car le papier blanc et la lumière lui arrachaient des larmes. C'était une grande souffrance nasale. Il prenait ses cachets d'aspirine et songeait que dans le même moment, peut-être, Pomme avalait des barbituriques. Cela l'humiliait. Il était jaloux de Pomme, jaloux de ce qu'elle avait peut-être emporté dans sa petite valise et les grands sentiments. Il sortait de ses doutes en se disant que pour lui, de toute façon, il n'était pas encore autant de volter au-dessus de ses propres funérailles. L'hôpital consistait en 3 ou 4 pavillons au milieu des arbres, à 30 km de la capitale sur la route de Chartres. On était au mois de juin. Les visiteurs et les malades étaient installés sur des bancs dans le parc. Je me suis assis à mon tour avec la dentelière. J'aurais pu me croire en vacances avec elle, dans une ville thermale, au milieu des autres curistes, certains en robe de chambre. Mais il y avait devant moi cette maigreur pathétique et ce regard fasciné. C'était d'un autre monde que les parterres de fleurs et l'ombre doucement balancée d'une branche, juste derrière le visage de la dentelière. Je lui ai demandé depuis quand elle était là. Depuis le printemps. Et avant ? Avant, rien. Seulement sa maladie. Elle ne pouvait plus rien manger. Est-ce que je comprenais ? C'était plus fort qu'elle. Elle aurait bien voulu, mais rien ne passait. C'était une drôle de maladie. Alors, on l'avait mise à l'hôpital, d'abord à Paris, puis ici. Tout allait bien à présent. Je ne devais pas m'inquiéter. Mais je ne m'inquiétais pas de cela, ou du moins pas seulement de cela. Et j'insistais. Et avant, que s'était-il passé ? Elle me répéta, rien. Mais c'était ce rien que j'avais besoin de comprendre. Tout cet espace entre notre séparation et maintenant, où devait s'être fomentée l'immense solitude de ce corps qui n'était plus de cette vie ? Et puis non, il n'y avait rien de vraiment nouveau. Pas même cette difficulté que j'éprouvais à parler, tandis que s'approfondissait devant ma parole le mutisme de la dentelière. Son aspect physique s'était profondément modifié, mais je sentais, à mesure que mes souvenirs d'elle remontaient à ma conscience, que la dentelière n'avait pas changé. C'était toujours la même absence d'elle, devant moi. Elle ne me paraissait pas triste, par exemple d'être dans cet hôpital, mais je ne l'avais jamais vue triste autrefois. Simplement, elle était étrangère, autre, prisonnière, non de l'hôpital, non de sa maladie, mais de la région lointaine où elle n'avait jamais cessé d'être. Est-ce cela, sa folie ? C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.